La chute de la maison Usher, de Edgar Allan Poe. Nouvelle traduction de Christian Garcin et Thierry Gilibeuf. Publié aux éditions Phébus. Réalisation Cédric Ossir.
Pendant toute une journée morne, sombre et muette d'automne, alors que les nuages oppressants étaient bien bas dans les cieux, j'avais traversé seul, à cheval, une contrée singulièrement sinistre, et j'avais fini par me retrouver, alors que les ombres du soir gagnaient du terrain, en vue de la mélancolique maison Usher. J'ignore comment cela fut possible, mais au premier regard que je jetais sur le bâtiment, une tristesse insupportable envahit mon esprit. Je dis bien insupportable, car elle ne se trouvait pas atténuée par le sentiment plus ou moins agréable d'ordre poétique avec lequel l'âme accueille d'ordinaire les images naturelles les plus sévères de la désolation ou de la terreur. Je contemplais le décor qui s'offrait devant moi, la simple demeure et le cadre banal du domaine, les murs lugubres, les fenêtres pareilles à des yeux vides, quelques rangées de lèches et quelques troncs d'arbres blancs et pourris, en éprouvant une forte dépression que je ne saurais mieux comparer qu'à la phase où l'opiomane sort de sa rêverie, le retour amer à la vie quotidienne. Le moment effroyable où le voile retombe. Le cœur se glaçait, s'effondrait, ressentait un malaise. Des pensées d'une irrépressible tristesse qu'aucun aiguillon de l'imagination ne parvenait à piquer pour les pousser vers le sublime. Qu'est-ce qui faisait ? Je m'arrêtais pour y réfléchir. Qu'est-ce qui faisait que la contemplation de la maison Usher me mettait tellement les nerfs à vif. C'était un mystère des plus insolubles, et j'étais incapable de lutter avec les sombres images qui s'emparaient de moi pendant que je m'interrogeais. Je fus forcé d'en arriver à la conclusion guère satisfaisante que s'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont le pouvoir de nous affecter ainsi, l'analyse de ce pouvoir s'abîme dans des considérations qui nous sont insondables. Il était possible, me suis-je fait la réflexion, qu'une disposition différente des éléments du décor et des détails du tableau eût suffi à modifier, voire à annihiler, cette capacité à générer des impressions pleines de tristesse. Mû par cette idée, je guidais mon cheval vers le bord vertigineux d'un petit étang sombre et macabre, miroir imperturbable au pied du bâtiment. Et je regardais, parcouru d'un frisson encore plus violent que la première fois, les images inversées et refaçonnées des lèches grises, des effroyables troncs d'arbres et des fenêtres pareilles à des yeux vides. C'était néanmoins dans ce manoir mélancolique que je me proposais désormais de séjourner quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Usher, avait été un de mes bons camarades d'enfance, mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Cependant, une lettre m'était parvenue récemment, dans une partie reculée du pays, une lettre de lui, qui, de par sa nature farouchement importune, n'admettait d'autre réponse que ma venue. Le manuscrit laissait percer une agitation nerveuse. Son auteur parlait d'une grave maladie physique, d'un désordre mental qui l'oppressait, et du grand désir de me voir, étant son meilleur et en vérité seul ami proche, avec l'idée qu'il pourrait, grâce à ma compagnie enjouée, trouver quelque soulagement à son mal. La façon dont tout cela, et bien davantage encore, était dit, tout le cœur qu'il mettait dans sa requête ne me laissait aucune possibilité d'hésiter, et partant, j'obéis sur le champ à une convocation que je ne manquais pas de trouver très singulière. Bien que jeune garçon, nous ayons été intimes, je connaissais en réalité peu de choses de mon ami. Il s'était toujours montré d'une réserve excessive. J'étais cependant conscient que sa famille très ancienne s'était illustrée en des temps immémoriaux par un tempérament particulièrement sensible qui s'était révélé à travers les époques dans maintes œuvres d'art exaltées et s'était récemment manifesté par des actes répétés de charité aussi généreuse que discrète, ainsi que par une dévotion passionnée pour les difficultés, peut-être même plus que pour les beautés orthodoxes aisément reconnaissables de la science musicale. J'avais également appris ce fait des plus remarquables. La souche de la race des Usher, aussi honorablement ancienne fut-elle, n'avait donné à aucune époque de branche durable. En d'autres termes, la famille tout entière se perpétuait toujours en ligne directe, à quelques variations très insignifiantes et passagères près. C'était cette absence, me disais-je, en songeant au parfait équilibre entre le caractère des lieux et le caractère proverbial des gens, et en spéculant sur l'influence potentielle que l'une avait pu exercer sur l'autre au fil des siècles. C'était cette absence, sans doute de branches collatérales, et par conséquent, cette transmission de père en fils, sans la moindre ramification du patrimoine comme du nom, qui avait à la longue si bien identifié les deux, que le nom originel du domaine s'était fondu dans l'appellation équivoque et bizarre de Maison Usher, une appellation qui, dans l'esprit des paysans qui y recouraient, semblait inclure à la fois la famille et le manoir familial. J'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puérile, qui avait consisté à scruter le petit étang, avait été de renforcer ma première impression singulière. Impossible de douter que la conscience que j'avais de la rapidité avec laquelle ma superstition augmentait, car pourquoi ne lui donnerais-je pas ce nom, servait essentiellement à en accélérer l'accroissement. Telle est, je le sais depuis longtemps, la loi paradoxale de tous les sentiments reposant sur la terreur. Et il est possible que ce soit l'unique raison pour laquelle, quand j'ai levé les yeux pour regarder la maison, les détachant de son reflet dans l'eau, une étrange idée s'empara de moi. Une idée si ridicule en vérité que je ne la mentionne que pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait tellement travaillé que j'en étais venu à croire réellement que le manoir et le domaine tout entier, ainsi que leurs environs immédiats, baignaient dans une atmosphère qui leur était propre. Une atmosphère qui n'avait aucune affinité avec l'air du ciel, mais qui montait des arbres en décomposition, des murs gris et de l'étang silencieux, une vapeur pestilentielle et mystique, pesante, indolente, à peine perceptible et couleur de plomb. Chassant de mon esprit ce qui devait avoir été un rêve, j'examinais de plus près l'aspect réel du bâtiment. Sa principale caractéristique semblait être celle d'une excessive antiquité. Les siècles avaient laissé une décoloration importante. De minuscules champignons recouvraient tout l'extérieur et pendaient des larmiers en un fin entrelacs brodé. Mais tout cela ne traduisait aucun délabrement extraordinaire. Aucune portion de la maçonnerie ne s'était effondrée et il semblait y avoir une contradiction totale entre l'état parfait de ses parties et les pierres qui s'effritaient. Cela m'évoquait beaucoup l'intégrité trompeuse de vieilles boiseries qui auraient pourri pendant de longues années dans un caveau oublié sans jamais être dérangées par le souffle de l'air extérieur. Cependant, mis à part cet indice d'une vétusté excessive, l'édifice ne laissait guère apparaître de signes d'instabilité. Peut-être que l'œil d'un fin observateur aurait pu découvrir une fissure à peine perceptible qui, partant du toit de la façade, redescendait le mur en zigzag pour se perdre dans les eaux maussades de l'étang. Tout en remarquant ces choses-là, j'empruntais à cheval une courte chaussée menant à la maison. Un domestique prit ma monture et je pénétrai sous la voûte gothique de l'entrée. Un valet, à la démarche furtive, me conduisit en silence à travers maint couloir obscur et compliqué jusqu'au cabinet de son maître. Bien des choses que je croisais en chemin contribuèrent, j'ignore comment, à renforcer les vagues sentiments dont j'ai déjà parlé. Alors même que les objets qui m'entouraient, alors même que les sculptures au plafond, les sombres tapisseries sur les murs, la noirceur d'ébène des parquets et les trophées armoriaux fantasmagoriques qui cliquetaient quand je marchais à grands pas étaient des choses auxquelles j'avais été habitué depuis mon enfance, alors même que je n'hésitais pas à reconnaître que tout cela m'était bien familier, je ne laissais pas d'être surpris par les pensées insolites que faisaient naître ces images ordinaires. Sur l'un des escaliers, je rencontrais le médecin de la famille. Sa physionomie, pensais-je, affichait une expression mêlée de vile fourberie et de perplexité. Il m'aborda avec anxiété et poursuivit son chemin. Le valet ouvrit alors une porte en grand et m'introduisit en présence de son maître. Sitôt que je fus entré, Usher se leva d'un sofa sur lequel il était allongé de tout son long et m'accueillit avec une vive chaleur qui tenait trop, me dis-je d'abord, à une cordialité surfaite, à l'effort contraint de l'homme du monde ennuyé. Mais un simple regard porté à sa physionomie me convainquit de son absolue sincérité. Nous nous assîmes, et pendant quelques instants, alors qu'il ne disait mot, je le fixais, partagé entre crainte et pitié. De toute évidence, jamais aucun homme avant lui n'avait aussi effroyablement changé et en si peu de temps que Roderick Usher. Ce n'est pas sans mal que je parvins à admettre que l'homme que j'avais devant moi était bien le compagnon de mes années d'enfance. Les traits de son visage avaient toujours été singuliers. Une complexion cadavéreuse, de grands yeux liquides et d'une luminosité sans égale, des lèvres assez fines et très pâles, mais d'une courbe excessivement belle. Un nez délicat, de type hébraïque, mais avec des narines d'une largeur inhabituelle pour ce genre de forme. Un menton finement dessiné dont le manque de proéminence traduisait un manque d'énergie morale. Des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus qu'arachnéenne. Tous ces traits, auxquels s'ajoutait un développement disproportionné de la partie située au-dessus des tempes, lui conféraient une physionomie d'ensemble qu'il n'était pas facile d'oublier. Et à présent, dans la simple exagération de ses traits dominants et de l'expression qu'il lui donnait d'ordinaire, s'était opéré un tel changement que je doutais de la personne à qui je parlais. À présent, la pâleur effroyable de la peau et l'éclat miraculeux de ses yeux par-dessus tout m'inquiétaient et m'effrayaient même. Il avait laissé pousser inconsidérément ses cheveux soyeux, et comme cette sorte de gaz échevelé flottait plutôt qu'elle ne retombait sur son visage, je ne parvenais pas, même en faisant un effort, à associer ces arabesques avec l'idée ordinaire de quelque chose d'humain. Je fus frappé d'emblée par une forme d'incohérence, de contradiction dans les manières de mon ami. Et je ne tardais pas à découvrir qu'elle venait de toute une série de menus et futiles efforts pour surmonter une excitation habituelle, une agitation nerveuse excessive. Je m'étais préparé à quelque chose de cette nature, non pas tant à cause de sa lettre qu'à cause du souvenir de certains traits remontant à son enfance et de conclusions tirées de sa conformation physique singulière et de son tempérament. Sa façon d'agir était tour à tour vive et renfermée. Sa voix variait rapidement d'une indécision tremblante, quand sa vivacité d'esprit semblait en suspens, à cette sorte de concision énergique, cette énonciation abrupte, pesante et posée qui rendait un son creux. Cette élocution gutturale lourde, équilibrée et parfaitement modulée, que l'on peut observer chez l'ivrogne accompli ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes où son excitation est à son comble. C'est sur ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite, de son vif désir de me voir et du réconfort qu'il attendait que je lui procure. Il aborda assez longuement ce qu'il estimait être la nature de sa maladie. Il s'agissait, disait-il, d'un mal constitutionnel et familial, auquel il désespérait de pouvoir trouver un remède, une simple affection nerveuse, s'empressa-t-il d'ajouter, qui ne tarderait pas à passer, il n'en doutait pas. Elle se manifestait par une foule de sensations anormales. Certaines d'entre elles, pendant qu'il me les détaillait, m'intéressaient et me déroutaient, bien qu'il fût possible que les termes choisis et le ton général de la narration y aient beaucoup contribué. Il souffrait énormément d'une acuité morbide des sens. Seuls les aliments les plus insipides lui étaient supportables. Il ne pouvait porter des habits que d'un certain type de tissu. Les arômes de toutes les fleurs l'oppressaient. Une faible lumière suffisait à mettre ses yeux au supplice. Et il n'y avait que certains sons particuliers, ce que faisaient les instruments à cordes, qui ne lui inspirait pas un sentiment d'horreur. Je me rendis compte qu'il était l'esclave soumis d'une espèce de terreur anormale.
« Je mourrai, »
déclara-t-il.
« Je dois périr de cette déplorable folie. C'est ainsi et pas autrement que je me perdrai. Je redoute les événements futurs, pas en eux-mêmes, mais... dans leurs résultats. Je frémis à la pensée du moindre incident, même le plus trivial, qui soit susceptible d'agir sur cette insupportable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment aucune aversion pour le danger, sauf, dans son effet absolu, la terreur. Dans cet état de trouble, état pitoyable, je sens que le moment viendra tôt ou tard où vie et raison devront m'abandonner de concert dans une lutte inégale contre ce sinistre fantôme qu'est la peur.
J'appris de surcroît, par intervalles et par d'équivoques allusions à demi-mots, un autre trait singulier de son état mental. Il était lié par certaines impressions superstitieuses concernant la demeure qu'il habitait et d'où il ne s'était jamais hasardé à sortir depuis bien des années, concernant une influence, dont la force supposée fut évoquée en des termes trop obscurs pour être reproduits, une influence que certaines particularités dans la forme et la matière même de son manoir familial avaient à force de souffrance, disait-il, imprimée sur son esprit. Un effet dont le physique des murs gris, des tourelles, et de l'étang sombre où ils se réfléchissaient tous, avait fini par imprégner le moral de son existence. Il admit cependant, non sans hésiter, qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait avoir une origine plus naturelle et beaucoup plus palpable. La longue et sévère maladie, ou plutôt la fin de toute évidence imminente, d'une sœur tendrement aimée, sa seule compagnie depuis de longues années, sa dernière et unique famille sur Terre.
Sa mort,
ajouta-t-il avec une amertume que je ne pourrais jamais oublier,
ferait de moi,
lui si fragile et désespéré,
le dernier membre de la vieille lignée des Usher.
Pendant qu'il parlait, Lady Madeline, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, traversa lentement une portion éloignée de la pièce avant de disparaître sans même avoir remarqué ma présence. Je la regardais avec force étonnement, non sans un sentiment d'effroi, et pourtant, il me parut impossible de rendre compte de ces sentiments. Une sensation de stupeur m'oppressait, tandis que mes yeux suivaient ses pas qui se retiraient. Quand une porte se referma enfin sur elle, mon regard chercha instinctivement et fébrilement la physionomie de son frère, mais il avait enfoui son visage dans ses mains, et je pus seulement voir qu'une pâleur hors du commun avait gagné les doigts émaciés à travers lesquels coulaient d'abondantes larmes passionnées. La maladie de Lady Madeline avait longtemps déjoué la science de ses médecins. Une apathie solidement installée, un dépérissement progressif de sa personne et des crises fréquentes, quoique passagères, de nature peu ou prou cataleptique, tels étaient les diagnostics inhabituels. Jusque-là, elle avait enduré sans ciller le poids de sa maladie et n'avait pas encore pris le lit. Mais à la fin de la soirée où j'étais arrivé dans cette maison, elle succomba, comme me l'expliqua son frère pendant la nuit, en proie à une indicible agitation, à la force accablante du mal qui la détruisait. Et j'appris que le rapide coup d'œil que j'avais pu lui jeter serait probablement le dernier, que je ne verrais plus la dame, du moins de son vivant. Pendant les jours qui suivirent, son nom ne fut mentionné ni par Usher ni par moi-même. Et durant cette période, je redoublais d'efforts pour alléger la mélancolie de mon ami. Nous peignions et lisions ensemble, ou bien j'écoutais, comme dans un rêve, les déroutantes improvisations de sa guitare éloquente. Et ainsi, au fur et à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait l'accès sans réserve au tréfonds de son âme, je me rendais amèrement compte de la vanité de toutes mes tentatives pour réconforter un esprit dont les ténèbres, comme une qualité positive inhérente, déversaient en permanence sur tous les objets de l'univers moral et physique une irradiation de ténèbres mélancoliques. Si jamais mortel a peint une idée, c'était bien Roderick Usher. Pour moi, du moins dans les circonstances qui m'entouraient alors, s'élevaient des pures abstractions que l'hypocondriaque s'employait à projeter sur sa toile, une terreur d'une intensité insupportable, dont je n'ai jamais senti l'ombre dans la contemplation des rêveries certes rayonnantes, mais encore trop concrètes de Fuseli. L'une des conceptions fantasmagoriques de mon ami, où l'esprit d'abstraction ne se montre pas trop rigide, peut être esquissé, quoique faiblement, avec des mots. Une petite toile représentait l'intérieur d'une cave ou d'un tunnel rectangulaire et immensément long, avec des murs bas, lisses et blancs, sans aucun motif ni interruption. Certains détails accessoires du dessin contribuaient à suggérer que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive en dessous de la surface de la Terre. On ne voyait aucune issue nulle part sur toute sa longueur et on ne discernait pas la moindre torche ou source de lumière artificielle. Et pourtant, elle était envahie d'intenses rayons qui baignaient l'ensemble dans une splendeur blafarde et déplacée. Je viens juste de parler de l'état morbide du nerf auditif qui rendait toute musique insupportable à ce pauvre air, à l'exception de certains effets des instruments à cordes. C'était sans doute les limites étroites dans lesquelles il s'était confiné à la guitare qui avaient contribué en grande part au caractère fantastique de ses compositions. Mais on ne pouvait se représenter ainsi la fervente facilité de ses impromptus. Ils devaient être, et ils étaient bel et bien dans les notes comme dans les paroles de ses fantaisies échevelées, car il s'accompagnait souvent d'improvisations verbales rimées, résultat de cet intense recueillement et de cette concentration dont j'ai dit plus haut qu'il ne se manifestait que dans les moments particuliers de la plus haute excitation artificielle. Je me suis facilement rappelé les paroles d'une de ses rhapsodies. Elle m'a sans doute davantage impressionné quand il l'a interprétée, parce que, par sa portée intérieure ou mystique, je croyais percevoir pour la première fois qu'Usher avait parfaitement conscience que sa raison supérieure chancelait sur son trône. Les vers qui s'intitulaient « Le palais hanté » étaient, si ce n'est mot pour mot, à peu de choses près les suivants.
Dans la plus verdoyante de nos vallées, par de bons anges habités, se dressait autrefois un palais radieux, un beau palais majestueux dans le domaine du monarque pensé. C'est là qu'il s'élevait. Jamais séraphin n'avait survolé un édifice d'une telle beauté. De jaunes étendards glorieux et dorés flottaient et claquaient sur son toit. Tout cela se passait au temps glorieux des anciens rois. Et de chaque brise venant souffler en ces belles journées, le long des remparts pâles et panachés, s'échappait un doux parfum ailé. Ceux qui passaient par cette heureuse vallée voyaient, à travers deux fenêtres éclairées, des esprits en musique dansée, obéissant à un luth bien accordé, autour d'un trône où l'on voyait siéger véritable porphyrogénète, en apparat digne de sa majesté, celui qui du royaume était le maître. Et rayonnante de perles, de rubis et de joyaux, la porte du beau palais laissait couler à flot, qui ne cessait d'étinceler une troupe d'échos dont la douce fonction n'était que de chanter, de leur roi l'esprit et la modération, d'une voix d'une exquise beauté. Mais des créatures du mal en robe de chagrin assaillirent le haut domaine du souverain. Ah, pleurons, car aucune aube jamais ne se lèvera plus sur lui, si affligé. Et tout autour de sa demeure, la lumière qui rayonnait et s'épanouissait n'est plus qu'un souvenir amer des défunts jours du temps passé. Et désormais, ceux qui empruntent cette vallée voient, à travers les fenêtres rougeoyantes, de grandes formes fantasques s'agiter sur une mélodie dissonante. Tandis que, tel un fleuve sinistre et incessant, par la pâle porte se rue une foule hideuse à tout instant, qui rit, mais qui ne sourit plus.
Je me souviens bien que les suggestions qu'avait fait naître cette balade nous avaient entraînés dans toute une série de réflexions, au milieu desquelles une opinion d'Usher se fit jour, que je mentionne non pas tant pour sa nouveauté, d'autres hommes avaient pensé de même, mais en raison de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait. Cette opinion, dans sa forme générale, touchait à la sentience de tous les êtres végétaux. Mais dans son imagination déréglée, l'idée avait pris un caractère plus audacieux et empiétait, sous certaines conditions, sur le royaume de l'inorganique. Les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue ou tout l'abandon sincère de sa conviction. Toutefois, cette croyance se rattachait, comme je l'ai déjà laissé entendre, aux pierres grises de la demeure de ses ancêtres. Les conditions de sentience avaient été remplies ici, s'imaginait-il, par la méthode de construction de ces pierres, par l'ordre dans lequel elles étaient disposées, ainsi que les nombreux champignons qui les recouvraient et les arbres en état de décomposition qui l'entouraient, mais par-dessus tout, par l'endurance immuable de cet arrangement et sa duplication dans les eaux dormantes de l'étang. La preuve même de la sentience, se voyait, disait-il, et je sursautais en l'écoutant parler, dans la condensation progressive, mais avérée au-dessus des eaux et des murs, d'une atmosphère qui leur était propre. On en découvrait le résultat, ajoutait-il, dans cette influence silencieuse mais importune et effroyable qui, depuis des siècles, avait façonné les destinées de sa famille, il avait fait lui, tel que je le voyais à présent, tel qu'il était. De telles opinions se passent de commentaires, et je n'en ferai aucun. Nos livres, les livres qui depuis des années constituaient une bonne part de l'existence mentale du malade, étaient comme on pouvait le supposer en accord parfait avec ce caractère fantasmatique. L'un de ses volumes préférés était une petite édition in octavo du Directorium Inquisitorium par le dominicain Emeric de Gérone. Et il y avait des passages dans Pomponius Mela au sujet des anciens satyres et égypans africains sur lesquels Usher restait assis à rêvasser durant des heures. Mais il tirait ses plus grandes délices de la lecture scrupuleuse d'un in-quarto gothique excessivement rare et curieux, le manuel d'une église oubliée, le Vigiliae Mortuorum Segundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Je ne pouvais m'empêcher de songer au singulier rituel décrit dans cet ouvrage et à son influence probable sur l'hypocondriaque quand, un soir, m'ayant brusquement informé que Lady Madeleine n'était plus, il fit part de son intention de conserver son cadavre pendant une quinzaine de jours avant son inhumation définitive dans l'un des nombreux caveaux à l'intérieur des murs porteurs de l'édifice. Je ne me sentais pas en droit de contredire la raison factuelle qu'il avançait pour expliquer cette curieuse façon d'agir. En tant que frère, il avait été amené à prendre cette décision, me confia-t-il, après avoir considéré le caractère insolite de la maladie de la défunte, de certaines questions gênantes et appuyées de la part du corps médical, et de l'emplacement éloigné et exposé au vent du cimetière familial. Je ne nierai pas que, quand je me rappelais la sinistre physionomie de la personne que j'avais croisée dans l'escalier le jour où j'étais arrivé au château, je n'eus aucune envie de m'opposer à ce que je considérais au mieux comme une précaution inoffensive et rien moins qu'anormale. À la demande d'Usher, je l'aidais personnellement dans les préparatifs pour la sépulture temporaire. Le corps ayant été mis en bière, nous le portâmes à deux jusqu'au lieu où il devait reposer. Le caveau dans lequel nous l'installâmes et qui était resté refermé si longtemps que nos torches, à moitié étouffées par son atmosphère oppressante, ne nous permirent guère de l'examiner, était petit, humide et sans la moindre lumière. Il était situé à une grande profondeur, immédiatement sous la partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher. Il avait visiblement, en des temps féodaux reculés, fait office d'oubliette, et par la suite de dépôt de poudre ou d'une matière hautement combustible, car une partie du sol et tout l'intérieur d'une voûte que nous avions traversée pour y parvenir était soigneusement revêtue de cuivre. La porte, en fer massif, avait également été protégée de la même manière. Son poids immense faisait un bruit excessivement grinçant et aigu quand elle roulait sur ses gonds. Après avoir déposé notre funèbre fardeau sur des tréteaux, dans cet endroit effroyable, nous tournâmes légèrement sur le côté le couvercle du cercueil qui n'avait pas encore été vissé et regardâmes le visage de son occupante. Une ressemblance frappante entre le frère et la sœur retint d'abord mon attention et Usher, devinant sans doute mes pensées, murmura quelques mots qui m'apprirent que la défunte et lui-même étaient jumeaux et que des sympathies d'une nature difficilement intelligible avaient existé entre eux. Nos regards, cependant, ne restèrent pas longtemps posés sur la morte, car nous ne pouvions la regarder sans être effrayés. La maladie qui avait entraîné dans sa tombe cette lady dans la plénitude de sa jeunesse avait laissé, comme cela arrive dans toutes les maladies de nature strictement cataleptique, une légère rougeur grotesque sur la poitrine et le visage, et ce sourire équivoque et persistant sur les lèvres qui est si terrible dans la mort. Nous replaçâmes et vissâmes le couvercle et, après avoir consolidé la porte de fer, nous regagnâmes, non sans peine, les appartements guère moins mélancoliques de l'étage supérieur du manoir. Et ensuite, après que quelques jours de chagrin et d'amertume se furent écoulés, un changement visible intervint dans la nature du désordre mental de mon ami. Il ne se comportait absolument plus comme à son ordinaire. Ses occupations habituelles étaient négligées ou oubliées. Il errait de chambre en chambre, d'un pas pressé, inégal et sans but. La pâleur de sa physionomie avait pris, si tant est que ce fût possible, une teinte encore plus livide. Mais la luminosité de ses yeux avait totalement disparu. On n'entendait plus le timbre parfois enroué de sa voix et un tremblement craintif, comme en proie à une terreur extrême, caractérisait d'ordinaire son élocution. Certaines fois, en effet, je pensais que son esprit sans cesse agité était aux prises avec quelque secret oppressant et luttait pour trouver le courage nécessaire pour le divulguer. Parfois aussi, j'étais bien obligé de conclure tout simplement aux lubies inexplicables de la folie, car je le voyais regarder dans le vide pendant de longues heures, dans une attitude d'extrême attention, comme s'il écoutait un bruit imaginaire. Pas étonnant que son état me terrifia, me contamina. Je sentais glisser sur moi, par étapes lentes mais sûres, la terrible influence de ses propres superstitions impressionnantes, toutes fantastiques qu'elles fussent. C'est en particulier quand je regagnais mon lit, tard le soir du 7e ou 8e jour, après que nous eûmes installé Lady Madeleine dans le donjon, que je fis l'expérience de toute la puissance de ses sensations. Le sommeil ne s'approchait pas de ma couche, tandis que les heures s'écoulaient les unes après les autres. Je luttais pour raisonner la nervosité qui s'était emparée de moi. Je m'efforçais de me convaincre que tout ce que je ressentais était plus ou moins dû à l'influence déconcertante de l'ameublement lugubre de la pièce. De sombres draperies en lambeaux qui, malmenées par le souffle d'une tempête naissante, tanguaient par à-coup sur les murs et bruissaient péniblement autour des ornementations du lit. Mais mes efforts restèrent vains. Des frissons irrépressibles envahirent petit à petit tout mon être, et bientôt, Un cauchemar, né d'une angoisse sans raison, vint peser sur mon cœur. Je le chassais en haletant violemment, me redressais sur les oreillers, et scrutant l'obscurité épaisse de la chambre, je tendis l'oreille. J'ignore pourquoi, si ce n'est que l'instinct m'y poussait, à certains bruits faibles et indéfinis qui me parvenaient dans les moments de répit de l'orage par longs intervalles dont j'ignorais la provenance. Terrassé par un intense sentiment d'horreur, aussi inexplicable qu'insupportable, j'endossais mes habits en toute hâte, car je sentais bien que je ne parviendrais plus à dormir de la nuit, et m'efforçais de me tirer de la situation pitoyable dans laquelle j'étais tombé en faisant les 100 pas dans la pièce. À peine avais-je fait quelques tours ainsi, qu'un pas léger sur un escalier voisin capta mon attention. Je ne tardais pas à reconnaître celui d'Usher. L'instant d'après, il frappait délicatement à ma porte et entrait en tenant une lampe. Son teint était, comme d'habitude, d'une pâleur cadavéreuse, mais dans ses yeux se lisait en plus une folle hilarité, une hystérie manifestement contenue dans toute son attitude. Son air m'effraya, mais tout était préférable à cette solitude que j'avais endurée si longtemps, et j'accueillis même sa présence comme un soulagement.
« Et vous ne l'avez pas vu ?»
demanda-t-il brusquement, après avoir regardé autour de lui en silence pendant quelques instants.
« Vous ne l'avez donc pas vu ? Mais restez, vous la verrez !»
Tout en parlant ainsi et en ayant pris soin d'abaisser sa lampe, il se précipita vers l'une des croisées et l'ouvrit en grand à l'orage. La fureur impétueuse de la rafale qui s'engouffra manqua presque de nous soulever du sol. C'était vraiment une nuit de tempête, mais terriblement belle et extrêmement singulière dans son horreur et sa beauté. Un tourbillon avait apparemment concentré ses forces dans les parages, car des changements violents et fréquents intervenaient dans la direction du vent, et l'excessive densité des nuages, qui étaient si bas qu'ils en pesaient sur les tourelles du manoir, ne nous empêchait pas de percevoir la vélocité quasi vivante avec laquelle, de toutes parts, ils se ruaient les uns sur les autres, sans disparaître dans le lointain. J'ai dit que leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir tout cela. Pour autant, nous n'apercevions ni la lune, ni les étoiles, et il n'y avait pas le moindre éclair. Mais la surface inférieure des énormes masses de vapeur agitée, ainsi que tous les objets terrestres dans notre environnement immédiat, rayonnait à la lumière surnaturelle d'une exhalaison gazeuse, faiblement lumineuse mais distinctement visible, qui flottait autour du manoir et le recouvrait comme un linceul.
« Il ne faut pas que vous voyez cela !»
m'écriai-je en frissonnant à l'adresse de Usher, en le reconduisant avec violence et douceur de la fenêtre à un siège.
« Ces apparitions qui vous abasourdissent ne sont que de simples phénomènes électriques des plus ordinaires. » À moins qu'ils ne tirent leur effroyable origine des miasmes nauséabonds de l'étang. Refermons cette croisée. L'air est glacial et dangereux pour votre constitution. Voici l'un de vos romans préférés. Je vais vous faire la lecture et vous écouterez. Et nous passerons ainsi ensemble cette terrible nuit.
L'antique volume que j'avais pris était le Mattress de Sir Launcelot Canning. Mais j'avais dit que c'était l'un des préférés de Usher, plus pour plaisanter tristement que pour en parler sérieusement, car en vérité, il n'y avait guère de quoi nourrir dans sa prolixité fruste et dépourvue d'imagination l'intérêt de mon ami pour l'idéalité suprême et spirituelle. Mais c'était le seul livre que j'avais immédiatement à portée de main, et je caressais le vague espoir que l'excitation qui s'était emparée de l'hypocondriaque pourrait trouver quelque soulagement, car l'histoire des troubles mentaux est remplie d'anomalies similaires, jusque dans l'outrance des folies que je m'apprêtais à lire. De fait, à en juger à la vivacité tendue avec laquelle il écoutait ou feignait d'écouter les mots du récit, j'aurais pu me féliciter du succès de mon entreprise. J'étais arrivé à cette partie bien connue de l'histoire où Ethelred, le héros de Mattrist, ayant cherché en vain à être admis dans la demeure de l'ermite, s'emploie à y pénétrer par la force. On se souvient qu'ici, les propos du narrateur sont les suivants. Et Æthelred, qui était par nature un cœur vaillant,
et qui, en outre, était désormais puissant, en raison de la force que lui avait donnée le vin qu'il avait bu, n'attendit plus de parlementer avec l'ermite qui, en vérité, était de tempérament obstiné et malicieux, mais, sentant la pluie sur ses épaules et redoutant que la tempête n'éclate, il souleva sa massue et, en quelques coups, eut au fait de frayer un chemin à sa main gantée à travers les planches de la porte. Et en tirant vigoureusement, il fit craquer, se fendre et voler le tout en morceaux, le bruit creux du bois sec donnant l'alarme et se répercutant dans la forêt.
À la fin de cette phrase, je sursautais. Et l'espace d'un instant, je marquais une pause, car j'eus l'impression, bien que j'eusse aussitôt conclu que ce n'était que le fruit de mon imagination à vif, j'eus l'impression que, d'une partie fort reculée du manoir, était parvenu à mes oreilles ce qu'on aurait cru être, à cause de sa ressemblance exacte, l'écho, mais un écho de toute évidence sourd et étouffé, du bruit de bois qui craque et se fend, que Sir Launcelot avait décrit avec tant de détails. Sans l'ombre d'un doute, c'était la seule coïncidence qui avait retenu mon attention, car parmi le vacarme des châssis des fenêtres et les bruits confus de l'orage qui ne cessaient de croître, le son en lui-même n'avait vraiment rien qui pût m'intéresser ou me troubler. Je repris l'histoire.
Mais le brave champion Æthelred, passant à présent par la porte, fut fort en colère et ébaubi de n'apercevoir aucune trace du malicieux ermite. Mais à sa place, un prodigieux dragon recouvert d'écailles, avec une langue incandescente qui menait la garde devant un palais d'or, avec un plancher d'argent, et sur le mur, suspendu, un bouclier d'airain rutilant, avec cette légende gravée: celui qui pénètre ici, un conquérant a été. Celui qui tue le dragon, le bouclier aura gagné. Et Æthelred souleva sa massue et frappa la tête du dragon, qui s'effondra à ses pieds et rendit son dernier souffle pestilentiel, en poussant un hurlement si effroyable, si âpre et si strident, qu'Æthelred dut se boucher les oreilles avec les mains pour se protéger de ce bruit affreux.
De ce bruit affreux.
Tel qu'on n'en avait jamais entendu.
Jamais entendu de semblable auparavant. À ce moment précis, je marquais à nouveau une pause soudaine, envahie par un sentiment de vif étonnement, car aucun doute n'était possible en l'occurrence. J'entendais bel et bien, bien que je fusse incapable de dire d'où cela provenait, comme un cri ou un grincement faible et vraisemblablement lointain, sec, prolongé et des plus inhabituels. L'exact pendant du cri surnaturel du dragon décrit par le romancier tel que je me l'étais imaginé. Accablé, comme je l'étais forcément, après cette seconde coïncidence si extraordinaire, par mille sensations contradictoires où dominaient l'étonnement et un extrême effroi, je parvins à garder suffisamment de présence d'esprit pour éviter d'exacerber, par une quelconque remarque, la nervosité si sensible de mon compagnon. Je n'étais absolument pas sûr qu'il eût remarqué les bruits en question, bien que de toute évidence son comportement eût connu une étrange altération au cours de ces dernières minutes. De sa position face à moi, il avait progressivement fait pivoter son fauteuil afin de se trouver assis, le visage tourné vers la porte de la chambre, de sorte que je ne parvenais à en voir les traits qu'en partie, bien que j'ai noté que ses lèvres tremblaient comme s'il murmurait quelque chose d'inaudible. Sa tête était retombée sur sa poitrine, mais je savais qu'il ne s'était pas endormi, son œil, que j'apercevais de profil, étant resté fixe et grand ouvert. Le mouvement de son corps venait également contredire cette idée, car il se balançait d'un côté à l'autre en douceur, mais de façon constante et uniforme. Ayant noté tout cela rapidement, Je repris le récit de Sir Lancelot qui se poursuivait ainsi.
Et maintenant, le champion, ayant échappé à la terrible fureur du dragon, se rappelant le bouclier d'airain et que l'enchantement qui se trouvait dessus avait été rompu, écarta la carcasse et avança courageusement sur le sol d'argent du château pour s'approcher de l'endroit où le bouclier était accroché au mur qui, en vérité, n'attendit pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds, sur le sol d'argent, en retentissant violemment et effroyablement.
À peine ces syllabes eurent-elles franchi mes lèvres, que comme si un bouclier d'airain était vraiment tombé lourdement sur un sol d'argent à l'instant même, j'en entendis l'écho distinct, creux, métallique et retentissant, quoiqu'apparemment étouffé. Extrêmement troublé, je bondis sur mes pieds, mais le balancement de Shore n'avait rien perdu de sa régularité. Je me ruais sur le fauteuil dans lequel il était assis. Ses yeux regardaient fixement devant lui, et toute sa physionomie était soumise à une rigidité de pierre. Mais quand je posais ma main sur son épaule, toute sa personne fut parcourue d'un violent tremblement. Un sourire maladif frémit sur ses lèvres, et je vis qu'il parlait tout bas, dans un murmure précipité et bafouillant, comme s'il n'avait pas conscience de ma présence. En me penchant tout près de lui, je finis par saisir l'horrible portée de ses paroles.
Vous ne l'entendez pas ? Oui, je l'entends et je l'ai entendu. Longtemps, longtemps, longtemps. Plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours. Je l'ai entendu, mais je n'osais pas. Oh, ayez pitié de moi, pauvre air que je suis. Je n'osais pas. Je n'osais pas parler. Nous l'avons mise vivante dans la tombe. Ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient extrêmement aiguisés ? Je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements au fond du cercueil. Je les ai entendus il y a plusieurs jours. Mais je n'osais pas. Je n'osais pas parler. Et maintenant, cette nuit, est-elle raide ? La porte brisée de l'ermite, le râle du dragon et le bruit retentissant fait par le bouclier. Disons plutôt son cercueil enfoncé, les gonds métalliques de sa prison qui grincent et la lutte avec la voûte en cuivre du caveau. Oh ! Où m'enfuirai-je ? Ne sera-t-elle pas là, d'un instant à l'autre ? N'est-elle pas en train d'accourir pour me reprocher ma précipitation ? N'ai-je pas entendu son pas dans l'escalier ? Est-ce que je ne distingue pas les battements lourds et effroyables de son cœur ? Pauvre fou !
Et il bondit furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes comme s'il rendait l'âme dans cet effort.
Pauvre fou ! Je vous dis qu'elle se trouve à présent de l'autre côté de la porte !
Comme si l'énergie surhumaine qu'il avait mise dans ses mots avait acquis la puissance d'un charme. Les énormes panneaux antiques qu'il désigna du doigt ouvrirent lentement, à l'instant même, leur lourde mâchoire d'ébène. C'était l'œuvre de la bourrasque. Mais derrière ces portes se dressait la silhouette altière et revêtue d'un linceul de Lady Madeleine d'Usher. Il y avait du sang sur ses habits blancs et les traces d'une âpre lutte se lisaient sur tout son visage émacié. L'espace d'un instant, elle demeura tremblante et titubante sur le seuil. Puis, avec un cri faible et plaintif, elle retomba lourdement sur son frère. Et dans son ultime agonie violente et mortelle, elle l'entraîna au sol, cadavre et victime des terreurs qu'il avait prévues. Je m'enfuis, atterré de cette chambre et de cette demeure. L'orage battait encore son plein quand je traversais la vieille allée. Soudain, une vive lumière se projeta sur le chemin, et je me retournais pour voir d'où pouvait bien provenir une lueur si inhabituelle, car il n'y avait derrière moi que l'immense manoir et ses ombres. La lumière était celle de la pleine lune rouge de sang en train de se coucher, qui brillait désormais vivement à travers cette fissure, à peine visible autrefois, dont j'ai dit qu'elle descendait du toit du bâtiment en zigzag jusqu'à sa base. Pendant que je regardais, cette fissure s'élargit rapidement. Puis, la tornade redoubla violemment. L'orbe lunaire tout entier explosa soudain sous mes yeux. Ma tête chancela quand je vis les puissants murs s'effondrer. Il y eut un long cri tumultueux, comme la voix d'un millier de grandes eaux. Et l'étang, froid et profond à mes pieds, se referma de mauvaise grâce et en silence sur les fragments de la maison Usher.
La chute de la maison Usher, de Edgar Allan Poe. Nouvelle traduction de Christian Garcin et Thierry Gilibeuf. Publiée aux éditions Phébus. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Avec Mathurin Voltz, Sébastien Poudreau, Damien Houssier. Musique originale, Manuel Pesquine. Accompagnée de Laure Gentialon, Julien Verne, Laurent Puchard et Aurélien Nafrichou. Prise de son et mixage, Manuel Couturier et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Cédric Ossire.